vaccin, tu l'as eu?
Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
Et tu l'as pris pour quoi?
J'ai pris le vaccin danse.
Le vaccin danse? Trop bonne idée!
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Val International de Nuit d'Afrique, presented by TD Bank, invites you to their 35th anniversary this summer. Join us for this world music event, a 13-day celebration from July 6th to the 18th. This innovative edition takes place in venues, outdoors and online. A fusion of past and present, rich in history and in new musical discoveries. Discover the surprises. For more information and tickets, go to festivalnuitdafrique.com.
Vous écoutez Les Beaux Sons avec Nathalie Di Palma. Sur les ondes de CKUT, le 90.3 FM.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute. Ce soir, nous recevons la récipiendaire du prix hommage de la journée de visibilité lesbienne 2021 qui avait lieu les 5 et 6 juin, la cinéaste d'animation et BDiste Diane Obomsawin, alias Obom. Bonsoir, Diane.
Salut, Nathalie.
D'abord, félicitations pour le prix hommage que tu as reçu en fin de semaine.
Oui, merci.
Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir reçu le prix hommage lors de la journée de visibilité lesbienne 2021?
Ben, c'est sûr que ça me rend fière. Oui, je suis très contente, surtout après Manon Massé, oui, l'année dernière.
Oui,
ça m'honore. C'est sûr que ça fait très plaisir.
Mais c'est un prix qui est bien mérité. Félicitations encore.
Merci.
Tu fais partie de la première vague de la bande dessinée underground au Québec. Quel a été ton cheminement?
La bande dessinée, c'est la première chose que j'ai fait, en fait, de toute ma vie, à partir de l'âge de 6-7 ans.
Wow.
Je commençais à être des bonhommes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que si j'arrête pas de dessiner, comme tous les enfants dessinent, si je continuais à dessiner, je pouvais prolonger l'enfance. Ah. Alors, je me suis dit, bon, et puis j'avais un demi-frère qui était au Beaux-Arts et qui envisageait de gagner sa vie éventuellement avec... lui, c'était l'architecture, mais je voyais qu'il y avait d'autres mondes qui dessinaient. Je dis, ça, c'est intéressant, donc je veux juste continuer, prolonger l'enfance et éventuellement peut-être gagner ma vie, en faire un métier. À cette époque-là, toutes les filles voulaient être hôtesses de l'air.
Oui.
C'était une génération comme ça et les gars, ils voulaient être camionneurs. Mon frère voulait être camionneur, moi je voulais être hôtesse de l'air, c'était comme normal. À peu près vers 9, 8, 9 ans, je me suis dit, non, on va laisser faire hôtesse de l'air. Je disais... dessinatrice à l'époque.
Okay.
Et puis, je faisais de la bande dessinée. En fait, je commençais à faire des petites histoires familiales, un peu de la famille. Et je m'étais rendu compte que ça faisait beaucoup rire ma mère, puis mon frère aussi. Mais en même temps, des fois, ça la faisait pas rire parce que, en même temps, c'était une façon pour moi de me défouler quand ça allait pas, la famille, quand la famille m'énervait.
Okay.
Donc, c'était double en même temps. Elle aimait pas ça toujours.
Hmm.
Ça commençait très jeune.
Ben oui, tu savais déjà, enfant, que tu aimais ça puis que tu voulais faire ça.
Oui, oui, ça a commencé très, très jeune.
Comment tu t'es rendue à concrétiser ce rêve-là de devenir dessinatrice?
Ben en fait, j'ai juste continué.
OK.
À l'époque, ma mère, c'est elle qui était... Enfin, quand on était en France, après l'école, c'est-à-dire l'équivalent d'après le cégep, il fallait comment je pourrais dire, on n'a pas fait d'études. Et je faisais des jobbings et je continuais à dessiner. Et à faire, on avait un magazine à l'école qui s'appelait Nombril.
Okay.
Et en fait, après l'école, j'ai continué à faire ce magazine. Et puis, je travaillais pour gagner ma vie comme dans des hôtels, pour faire du ménage et pour servir les petits déjeuners dans les chambres. Une fois, je suis entrée dans une chambre et j'ai vu un dessin de Lou Stahl, qui était un gars que j'admirais beaucoup, qui fait des bandes dessinées à l'aquarelle. Et j'étais assez émue.
Hmm.
de voir ses planches sur la table avec une bouteille de whisky.
Depuis 1992, tu te distingues également par une production de courts-métrages d'animation. Tu réalises à partir de 2000 pour l'Office national du film du Canada. Certains ont été primés, dont Ici par ici, qui est un récit autobiographique sur ton enfance déracinée. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce film?
Ah ben, ce film, c'était très important que je le fasse comme... Oui, parce qu'on s'était beaucoup déplacé dans mon enfance, dans un triangle Paris-Nice-Montréal. C'est assez étrange, mais je ne sais pas comment on a voyagé beaucoup, mais on s'est déplacé beaucoup. Puis j'avais des petits bouts que j'avais peur de perdre de ma vie. Alors, avant de m'endormir, des fois, je faisais le récit des événements pour ne pas perdre des petits bouts. Puis à un moment donné, ça, je faisais ça assez tôt dans ma vie. Enfin, peut-être à 18 ans, j'ai commencé à faire ça. Puis à 30 ans, je l'ai mis par écrit. Et ensuite, je l'ai mis dans une bande dessinée de 10 pages. Et puis, quand je suis rentrée à l'ONF, c'est pas du tout ça que je voulais faire. J'avais proposé une histoire de La Flûte Enchantée, une adaptation en film d'animation. On était prêts à partir en production. Il y avait même La Flûte Enchantée qui avait joué à l'opéra. On avait acheté des places avec mon producteur. Et puis donc, on était prêts à partir en production. Et à un moment donné, je lui ai montré pour le fun ma bande dessinée sur mon enfant. Et il disait « Ah, mais ça, je pense que ça va faire un meilleur film. » Alors, on a complètement oublié l'histoire de La Flûte Enchantée, qui est un peu reliée à mon enfance aussi, parce qu'on l'écoutait beaucoup. C'est le deuxième mari de ma mère, qui, lui, avait 3 enfants. Et puis, j'en parle dans le film. Et dans la bande dessinée, on voit qu'il écoute La Flûte Enchantée. Dans La Flûte Enchantée, il y a un personnage qui s'appelle Papa Guénot. Et je pensais, à cause du mot papa, je pensais que c'était mon demi-père, un genre de papa qui était, en fait, qui était Papa Guénot. Et donc, c'est un peu relié aussi à mon enfance, mais on l'a mis de côté pour faire le film. On a fait Ici par ici à la place.
C'est magnifique. Film.
Merci.
Toutes les autres aussi, celui-là particulièrement, avec J'aime les filles, évidemment. Tes œuvres ont été présentées dans de nombreux festivals d'animation au Canada et à l'étranger. Et c'est en 2016 que tu adaptes ta bande dessinée J'aime les filles à l'écran, qui a été présentée en fin de semaine, justement dans le cadre de la journée de visibilité lesbienne. Ce film a été un grand succès. Tu as remporté meilleur court-métrage narratif au Festival d'animation d'Ottawa et le prix Guy-El Côté pour le meilleur film d'animation canadien au sommet du cinéma d'animation. Il y avait l'histoire de plusieurs filles dans la bande dessinée, dont la tienne. Qu'est-ce qui t'a encouragé à en faire un film d'animation et comment as-tu choisi les histoires pour le film?
Alors, pour le film d'animation, je dois dire que je t'ai raconté que j'avais proposé La Flûte Enchantée puis que le producteur avait choisi Ici par ici, qui venait d'une bande dessinée. Mais pour Gaspard, le film que j'ai fait après, mon deuxième film, j'avais proposé une histoire de la mythologie grecque qui... En fait, plusieurs histoires, mais qui s'enchaînent l'une après l'autre. Et j'ai mis tous les personnages dans un manège d'enfants, parce que je trouvais ça fitait très bien, parce que je trouvais qu'il y avait un petit côté un peu enfantin dans les caprices des dieux. Et en fait, et mon producteur m'a vraiment fait avancer là-dessus. Il disait, non, je veux vraiment, avant qu'on commence le film, je veux vraiment que ce soit bien abouti. Alors, j'ai vraiment bossé fort là-dessus. Puis à la dernière seconde, il me dit, je pense que Gaspard, que j'allais faire bande dessinée. Il dit, je pense que Gaspard, ça va faire un meilleur film. Alors, pour J'aime les filles, j'ai dit, non, là, je refais pas une autre affaire. Vu qu'il va de toute façon me revenir avec la bande dessinée, on va y aller direct avec cette proposition de film qui vient d'une bande dessinée. Et de toute façon, ça s'est imposé. Lui, il voulait absolument le mettre en film. Et en fait, le film, c'est complètement un autre objet. C'est pas du tout la bande dessinée mise en mouvement. C'est vraiment autre chose, en fait. Okay. Et je suis contente de ça. C'est pas tout à fait le même visuel. En couleur, il y a le son. C'est le producteur, surtout mon producteur Marc Bertrand à l'ONF, qui m'a encouragé vraiment à faire un film avec ça. Et moi, ça me faisait vraiment plaisir. Parce que ce que j'ai perdu par rapport à la bande dessinée, c'est que dans la bande dessinée, il y avait plusieurs histoires. Puis chaque histoire était quand même un peu développée. Et là, pour faire vraiment... Si j'avais choisi tout ce qu'il y avait dans la bande dessinée, ça aurait fait un long métrage. Puis c'était un court-métrage de 9 minutes qu'on voulait faire. Donc, il a vraiment fallu choisir uniquement 4 histoires. Et dans les 4 histoires, vraiment faire un condensé. Parce que même à ça, ça aurait été trop long. Alors, j'ai, pour les 4 histoires, les 10 histoires qui sont dans la bande dessinée, j'ai choisi celle que je trouvais la plus drôle, la plus triste, et puis la plus romantique. Et puis, je me suis inclus dedans.
Oui, puis est-ce que ça correspond avec ton coming out du côté professionnel, ce film-là?
Non. Dans mon milieu de travail, on le savait. Je l'avais déjà dit. Mais j'ai pris du temps, en fait, à le dire. Ça a pris 4 ans, à peu près, ou 3-4 ans avant que je dise, moi, je préfère les filles. Parce que j'étais un peu tannée. Je suis en amour, mon chum, ceci, mon chum, cela. Puis j'en avais marre de me mettre un peu à part. Alors, je voulais pouvoir, moi aussi, parler de mes peines d'amour ou mes coups de foudre et tout ça. Alors, non, je l'ai dit. Et puis, professionnellement, c'était pas caché non plus, mais mettons que c'était pas en avant parce que j'ai pas raconté d'histoire sur l'homosexualité avant. J'aime les filles. C'est drôle parce que mon producteur, j'avais dit ça pour le fun comme ça. Là, ce serait bien une chanson de Françoise Hardy. Mais j'avais juste dit ça comme ça. Puis mon producteur, il dit après, j'avais avancé dans le film. Il dit bonne nouvelle, on a acquis les droits pour la chanson dont j'avais parlé.
Okay.
J'avais une scène pour la mettre, mais qui était une scène très courte et vraiment pas intéressante. J'étais obligée de faire une plus belle scène que prévu pour que ça rende hommage à Françoise Hardy.
On vient d'entendre Le temps de l'amour de Françoise Hardy, chanson qu'on peut entendre dans le film d'animation J'aime les filles de notre invitée Diane Obomsawin. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'animation?
De plus en plus. À l'ONF, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, quand on va dans des festivals, ça reste un univers d'hommes. Puis, bon, j'expliquais ça une fois aussi, il n'y a pas longtemps, qu'au bout de 7 jours, je suis fatiguée parce qu'il y a beaucoup de... Le son est plus fort dans les films de gars. Il y a plus d'action, il y a plus de mouvements rapides. Et c'est moins... je sais pas. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de testostérone. C'est majoritaire. Alors oui, ça reste un univers de gars quand même. Mais étonnamment, on prend notre place de plus en plus. Puis j'expliquais ça aussi il n'y a pas très longtemps. C'est comme j'ai pris une prise de conscience de ça, mais assez tard. Que comme j'aimais la bande dessinée, par exemple, la bande dessinée très tôt, très jeune. Mais là, c'était une majorité de gars, les auteurs. puis les filles qui aimaient la bande dessinée, mais sans le savoir, j'étais uniquement dans un imaginaire de gars. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est ça pour toute la culture, en fait. Au cinéma, c'est principalement, on est principalement dans des imaginaires de gars, ouais, majoritairement. Et on s'en rendait pas compte, en fait. Moi, ça, je m'en rendais pas tout à fait compte, jusqu'à ce que je prends une prise de conscience de ça. Ouais, dans la jeune vingtaine.
Tu parlais tantôt de Caspar. J'ai beaucoup aimé aussi ce film-là.
Oui.
Un orphelin célèbre.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire-là?
Quand je l'ai vu, quand j'avais 20 ans, un film de Herzog, quand j'ai vu le film s'appelait L'énigme de Gaspar Hauser, réalisé par Herzog, ça m'a tellement bouleversée. Je pensais que le film s'adressait juste à moi. Et après, je l'ai oublié, cette histoire. Mais ça m'a vraiment transformé, pas juste l'histoire, mais comment on pouvait faire du cinéma aussi. Comment on pouvait raconter ce genre d'histoire. Tout est énigmatique, en fait. Et c'est pas pour rien que Herzog l'a appelé l'énigme de Gaspar Hauser. Puis même sur le tombeau de Herzog, il a écrit Sigi, naissance inconnue, mort mystérieuse. Parce que, mettons, t'as ça sur ton tombeau, c'est vraiment énigmatique.
Oui.
Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la poésie du personnage. Il y a un personnage immensément poétique. C'est ça qui m'a attirée. Un personnage complètement déstabilisant par rapport à ce qu'on peut connaître. Par exemple, il faut que je raconte que Gaspar Hauser a existé. On a l'impression qu'il n'a pas existé. Hein. On parle de lui d'un personnage fantomatique. En fait, il a existé au 19e siècle. Il a été enfermé dans une cave quand il avait à peu près 2 ans. Et il n'est pas sorti de cette cave jusqu'à l'âge de 17 ans. Et c'était soi-disant un homme que lui, après, Gaspar a appelé l'homme en noir. C'était comme une ombre qui arrivait un peu derrière lui pour lui changer la nourriture, son pot pour ses besoins, un petit morceau de pain. Puis il était là tout le temps, assis sur de la paille pendant toutes ces années. Ce qui fait que, ce qu'il racontait après, quand il a raconté, il a appris à écrire et tout ça après, il a raconté sa vie. Il n'avait même pas conscience du malheur dans lequel il était parce qu'il n'y avait pas de point de repère, et il n'avait même pas la conscience d'exister non plus. Et peut-être ce qui l'a sauvé, c'est... Ah ouais, alors il faut dire qu'il était dans le noir, il n'entendait rien non plus. Dans tous ses sens, quand il est sorti, il était exacerbé. Puis, enfin, là, je passe du coq à l'âne, c'est une histoire tellement impressionnante. Quand il était dans la cave, il y avait un petit cheval, soi-disant l'homme en noir, il a donné un petit cheval et des rubans pour jouer avec le cheval. Et on penserait que c'est ça qui l'a sauvé, des psychologues, après, qui ont écrit des livres là-dessus. Je pense que c'est ça qui l'a sauvé du vide affectif total, parce qu'il a tout mis sur son petit cheval. Mmh. Et c'était quelqu'un d'assez attachant, parce que quand il est sorti, l'homme en noir a finalement décidé de le sortir, puis il l'a dompé dans une place... sur la place à Nuremberg, avec une lettre. Il dit, si vous ne savez pas quoi faire de moi, vous pouvez me pendre. Gaspard, avant qu'il sorte de la prison, l'homme en noir lui a appris à écrire son nom, puis il lui a appris quelques mots. Puis le mot qu'il disait toujours, c'est le mot « cheval ». Et donc, c'est à peu près tout ce qu'il savait dire. Et puis, il avait appris à écrire son nom. Donc, on savait qu'il s'appelait Gaspard. Et l'homme en noir lui a appris à marcher, parce qu'il avait les jambes tout arquées, vu qu'il n'avait jamais marché. Mais il marchait, mais vraiment pas bien. Mmh. Puis là, il y avait ce gars à l'aube, le matin, sur la place de Nuremberg, avec sa lettre, qui savait juste dire cheval, les jambes tout arquées, qui avait l'air d'un vraiment un idiot, tout pouilleux. Ce qui s'est passé, enfin, on l'a remis encore en prison, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il aimait les gens. Alors, quand il voyait quelqu'un arriver, comme le gardien de prison, il était tout souriant, tout content. Et je pense que ça a aidé à ce qu'on s'intéresse à lui,
oui,
d'une manière avec plus d'amour que s'il était violent ou méchant ou qu'il faisait juste grogner, par exemple. Alors, c'est une longue histoire.
Mais c'est très touchant. Le court-métrage que tu en as fait est très touchant.
Oui, merci. Ça, c'est mon film préféré.
Ah, c'est vrai?
Oui, c'est celui qui me touche le plus. C'est lui qui a le moins marché dans le festival. Peut-être c'est comme mon petit enfant, le moins bien-aimé, alors je le protège plus, je ne sais pas trop.
Ah, j'allais beaucoup aimer, moi.
Oui, merci.
On va écouter Vitalik, The Legend of Kaspar Hauser. Nous sommes toujours avec Diana Boumsaouin, récipiendaire du prix hommage de la JVL 2021. En janvier 2021, tu as sorti le petit livre pour les géants dont tu es l'auteur. Et qu'est-ce que tu voulais exprimer dans ce magnifique livre?
C'est pas mon initiative. Ce livre, c'est une éditrice. Elle s'appelle Nadine Robert. Elle a une maison d'édition qui s'appelle Comme des géants. Et il y a un livre qui existe qui s'appelle Le plus grand livre au monde par Richard Carey, qui est assez connu. Et ça faisait longtemps qu'elle voulait faire un grand livre, elle aussi. Et elle est venue vers moi pour me dire, j'ai pensé à toi pour faire le grand livre, qui serait à peu près plus grand que le plus grand livre au monde.
Oui, il est très grand.
Il est grand. Et oui, par exemple, il est plus grand qu'un nouveau-né.
Oui.
Ou même un petit bébé de peut-être 2 mois à peu près. Je sais pas trop, en fait. J'ai pas trop la taille du bébé. Mais une amie m'a envoyé son bébé à côté du lit et le livre est plus grand. Donc, et puis elle voulait faire un imagier. Donc, à partir de là, j'ai fait ce que je voulais, ce que je pensais. Ce qu'il fallait faire, c'est mettre beaucoup de mots. Donc, elle m'a suggéré de trouver des lieux assez différents à chaque page, pour qu'il n'y ait pas une répétition, que je puisse trouver des mots facilement. Finalement, il y en a entre 85 et 120 mots par page. Et j'ai commencé par des lieux comme la forêt.
Okay.
Ensuite, il y a le lac, la montagne, la prairie et la ville, je pense. La ville et l'océan. Et en fait, je commence par un lieu fermé qui est la forêt. Et ça finit avec un lieu ouvert qui est l'océan. Et dans chaque page, il y a un mélange de ce qu'on trouve dans les forêts. Mais c'est pas vraiment un livre sur les animaux. C'est comme un mélange de, par exemple, ce qu'on trouve dans les forêts. Il y a un mélange avec la mythologie et les contes de fées.
Okay.
Et puis aussi des loufoqueries, là, un peu. Et à la fin, au loin dans la forêt, il y a un lac. Mais ça, je sais pas si on s'en rend compte, puis ça, c'est comme ça. J'aime bien faire des choses qu'on sait pas, on découvre ou on découvre pas, mais on découvre après que ça, c'est comme ça. Ça saute pas aux yeux au prime abord, mais dans la forêt, il y a un lac au loin, et quand on ouvre la page, c'est le lac. Le lac, il y a toutes sortes de choses, la mythologie, des choses qu'on trouve dans le lac, des choses qui se peuvent pas un peu, mais qui marchent bien quand même. Et au loin du lac, il y a la montagne. On voit au loin la montagne, on trouve la page sur la montagne. La montagne, pareil, sur le côté droit, au loin, on voit la prairie, on tourne la page sur la prairie. Ensuite, au loin de la prairie, on voit une ville. Ensuite, c'est la ville, et dans la ville, c'était très facile de trouver plein de mots. Et par contre, un peu moins de légendes, à part le rat des champs, le rat des villes, enfin, un petit peu de légendes. Et puis, au fond de la ville, il y a l'océan. Et voilà, ça finit comme ça.
C'est un livre qui s'adresse aux enfants.
Oui. J'ai essayé de faire quelque chose, parce que c'est pour les bébés jusqu'à 6 ans.
Okay.
Mais j'ai essayé de faire quelque chose que les petits bébés pourraient aimer, parce que c'est des couleurs et tout.
Oui.
Puis effectivement, ils l'aiment parce que j'ai beaucoup de gens qui m'envoient leurs bébés. Ah. Et puis moi, j'adore les bébés. J'aime beaucoup les bébés. Je les trouve vraiment tendres et vraiment sympas. Et puis, alors, ils montent avec leurs petites mains, leurs petits doigts, des choses, mais sans pouvoir les nommer exactement. Puis, ils peuvent apprendre tranquillement des mots. Puis après, l'idée, ce que j'espère, c'est que, parce qu'il y a des mots comme... Atlas, où il y a des références à Hercule. Et puis, ce que j'espère, c'est que quand l'enfant va vieillir avec ce livre, quand il va avoir 8, 10 ans, 9, il va pouvoir dire « Ah, mais ça, je l'ai appris à l'école, c'est Ulysse. » Et puis aussi, il y a des petits clins d'œil pour les parents, peut-être pour qu'ils puissent rigoler un peu aussi des fois.
Ah, ben c'est génial aussi que tu aies la réaction des enfants.
Oui. J'ai hâte d'avoir, j'ai pas hâte, mais d'avoir 80 ans, puis que des enfants qui ont grandi avec le livre me disent « Ah, j'ai grandi avec ce livre, puis l'effet que ça leur a fait. »
Oui, c'est ça. Puis c'est quand même, oui. Le livre est gigantesque pour les enfants. Là, oui. Quand on est petit, on trouve tout plus grand.
Oui. Alors l'idée aussi du titre s'appelle « Le petit livre pour les géants », parce que je voulais pas faire une surenchère de grand. Donc je voulais faire quelque chose qui est le mot « petit » dans le... J'avais même pensé à écrire « Le petit livre », mais je me suis dit « Le petit livre », ça fait fausse humilité ou c'est pas la réalité. Alors, on a pensé « Le petit livre pour les géants ».
C'est un très bon titre.
Et, oui. Parce qu'il est, alors, il y a, sur la page couverture, il y a un géant qui lit un tout petit livre pour lui. Et c'est la page couverture, dans la page couverture.
Puis ce livre-là est en vente partout dans les librairies. Hein?
Oui. Mais j'avais pas réalisé en trouvant le titre. Ah oui, puis dans chaque page, il y a le géant de la forêt, le géant du lac, le géant de la prairie, c'est ça aussi. Et oui, il y a dans chaque page, il y a des références à des choses qui reviennent. Les lettres de l'alphabet, ils sont répartis dans toutes les pages, des petites choses qui reviennent. Donc, avec le titre, je n'avais même pas réalisé que la maison d'édition, c'était comme des géants, mais j'avais pas fait le... J'ai fait le rapprochement juste à un moment donné.
OK. Après avoir trouvé le titre, c'est ça?
Oui, c'est drôle.
Est-ce que tu aimerais un jour faire un long métrage? Tantôt, tu disais que « J'aime les filles » aurait été un long métrage.
Ça, c'est drôle. Il y a beaucoup d'animateurs qui veulent faire des longs métrages en ce moment. Je sais pas du tout. Et hier, j'ai vu une série fantastique, une série animée en anglais qui s'appelle « Undone », qui est plutôt dramatique.
Okay.
C'est pas du tout comique, mais c'est extraordinaire. Alors, je me suis dit que oui, peut-être en série, une série plutôt qu'un long métrage, mais en fait, je sais pas du tout. Ma tête, déjà, elle est un peu occupée parce que après, je suis en train de préparer un court métrage qui s'appelle Je ne t'aime plus. C'est un peu dur. Après, j'aime les filles, mais c'est une histoire plutôt hétérosexuelle parce que je voulais pas. Si j'avais mis deux filles ou deux gars, ça aurait mis le focus à la mauvaise place.
Okay.
C'est plutôt sur. D'après un cauchemar que j'ai fait. Okay. Et c'est un pattern dans les relations amoureuses. Et le personnage, enfin moi en fait, j'ai les défauts du gars qui sont dans le film, qui veut absolument s'adapter à l'être aimé pour être sûr de bien être aimé. Puis finit par... moi, j'ai fait le cauchemar, alors ça m'a un peu guéri. Mais... dans le personnage, il est insupportable parce que... En fait, c'est un couple qui se connaissent très peu. Mais ça fait un an qu'ils sont ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Et là, ils décident de fêter leur première rencontre ensemble au chute Niagara dans un motel en face des chutes. Et en fait, c'est la première fois qu'ils voyagent ensemble. Puis, ça commence très bien, mais ça dégénère en 7 jours. Parce que là, elle finit par voir un peu le personnage qui veut absolument se suradapter à la personne aimée. Alors, il en finit par perdre un peu sa personnalité. Il est comme tout le temps trop gentil, mais trop. Et ça, j'ai vraiment exagéré, hein, mais pour pouvoir... Et puis, j'avais fait ce cauchemar-là et ça m'avait glacé le sang quand je me suis réveillée. Et je n'ose pas trop raconter l'histoire, mais ça dégénère. Et après, ça transforme en une banale histoire d'amour. À un moment donné, ça se transforme en thriller psychologique.
OK. Tu penses nous présenter ça prochainement?
Ben là, j'ai fini l'écriture et c'est un long processus. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle une animatique. On place un peu les images clés. Après, je vais faire des recherches sur les couleurs, les personnages, les backgrounds, tout ça. Après, on passe en production. Puis ça c'est peut-être pour l'an 2022.
Puis c'est quand même beaucoup de travail, faire des films d'animation.
Oui.
C'est beaucoup de travail. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui travaille sur tes courts-métrages. J'ai vu dans les génériques qu'il y a quand même beaucoup de monde impliqué là-dedans.
À la fin, mais pendant tout le processus, on est seul. Pour des films d'animation courts, à partir de 20 minutes, il vaut mieux avoir une grosse équipe en permanence, tout le temps. Okay. Mais pour des films courts, à l'ONF, on est seul. On est complètement solitaire. Hein. C'est un métier très, très solitaire. Ouais. Il y a peut-être moine, poète et animateur dans à peu près le même genre de solitude. Ouais. Et après, c'est le fun parce qu'après, il arrive toutes sortes de monde. Là, c'est ouais, un gros, gros plaisir. Parce que non seulement on n'est plus seul et ça fait du bien, mais chaque touche après de la musique, des effets sonores, des folies, c'est vraiment fun. C'est les déplacements des corps dans l'espace, les marches, les petits pas, dès qu'on touche quelque chose, le froissement des vêtements. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que la personne qui fait les folies, elle vient avec des grosses valises, c'est un peu comme un magicien, avec toutes sortes de choses. Et puis, elle fait les sons en direct avec le film qui est déjà monté, réalisé, avec les voix. Okay. Puis là, c'est cette étape-là. Donc, elle fait tous les sons, mais... En regardant l'image, c'est fantastique. Comme à l'ONF, il y a des petites portes avec sur le sol, tu ouvres des trappes, il y a des graviers pour toutes sortes de sols différents pour que les personnes puissent, qui font les folies, marchent dessus pour, mettons, si t'es dehors, si la scène est dehors, tu marches sur des petits graviers ou sur du sable ou sur un parquet qui grince et tout ça. Ça, c'est ce que j'aime le plus.
Est-ce que c'est toi qui fais souvent la narration de tes courts-métrages?
Non, ça ne donne pas toujours. Pour ici par ici, vraiment, il fallait. Okay. Ça marchait très, très bien. Puis on essayait avec des comédiens, ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. C'est compliqué, ça, des fois, parce que les comédiens, autant au cinéma, j'aime bien... J'ai un respect immense pour ce métier-là, les gens qui font ce métier. Autant en film d'animation, ou pour le genre de film que je fais, c'est souvent trop joué. Puis c'est dur de dire à un comédien, fais quelque chose, mais qu'il soit pas joué. C'est comme un peu aberrant. Alors c'est souvent mieux de prendre des non-comédiens. Okay. Mais des non-comédiens totalement, des fois, parfois, ça marche pas toujours. Comme dans J'aime les filles, les comédiennes, ça marchait pas du tout. Ça plaisait pas. Et les non-comédiennes, il y a juste Marie qui joue en français, le personnage de Marie. Okay. C'est une femme qui a beaucoup, beaucoup d'humour. Et puis, elle venait de se faire quitter. Et puis, c'est comme un genre de mauvaise humeur, mais bénéfique. puis qui a vraiment servi le film parce qu'elle faisait une narration comme parfaite avec un genre de projection qui marchait bien avec le personnage du film. Mais ça a été l'affaire la plus dure à trouver, c'est les voix pour le film. Parce que d'abord, il fallait que ce soit des voix très différentes entre les personnes.
Ouais.
Pour qu'on pense pas que c'est toujours la même personne. Puis on voulait pas que ce soit joué, justement. Et finalement, c'est la musicienne qui a beaucoup, celle qui a fait la musique, qui a beaucoup travaillé là-dessus, auditionné beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et finalement, c'est les musiciennes qui ont le mieux fait. J'ai une amie que j'ai vue quand elle était presque le jour où elle est née, qui maintenant est musicienne. Alice Touga joue dans Canaille, je pense. Okay. Et puis elle a fait la voix d'un personnage qui s'appelle Mathilde. Ah, ça marchait tellement bien. Puis elle a dit, mais moi, j'ai d'autres amis qui font de la musique aussi avec moi ou qu'elle connaît, qui seraient bien aussi. Puis effectivement, il y a beaucoup de musiciennes qui ont fait la bruit. Peut-être qu'elles ont le sens, je ne sais pas, de la projection, mais en même temps, sans jouer, je veux dire projeter la voix, le sens du rythme, mais sans jouer non plus. Je ne sais pas, ça a bien marché. Et en anglais, c'était horrible. Parce que pour les voix anglaises, on n'avait pas le droit de prendre des non-comédiennes.
Okay.
Et à cause de syndicats, je pense. Et puis, ça ne marchait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis, on a fait une table ronde. Finalement, tout le monde a entendu pour dire « Non, il faut qu'on brise cette voix-là parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Okay. » Puis, on a réengagé d'autres femmes qui n'étaient pas des comédiennes.
Vous essayez plusieurs voix pour voir ce qui fonctionne bien.
Oui, 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 oui.
On va écouter le groupe Canaille et on revient avec Diane Obomsawin. sommes de retour avec Diana Bomsawin, BDiste et cinéaste d'animation, et on parle de son court-métrage « J'aime les filles » qui a fait plus de 40 festivals internationaux.
Pour le film, je voulais vraiment que ce soit un film très sensuel. Je voulais que, et pour la bande dessinée aussi, je voulais qu'on ait clairement une sexualité. Et je voulais que ce soit très sensuel. Et comme je dessine pas très bien de façon réaliste, j'ai beaucoup décalqué sur des photos de nus ou des tableaux de courbés pour avoir des beaux corps. Je voulais, comme je disais, vraiment sensuel. Et pour l'animation aussi, je voulais que ce soit très sensuel. Et comme j'avais le même défaut de pas dessiner de façon réaliste, on a fait ce qu'on appelle la rotoscopie, qui en fait la rotoscopie, c'est de dessiner, tu filmes des personnes en live et après tu dessines par-dessus en dessin.
Okay.
Alors c'était ça. Et pareil, là c'est drôle parce que là c'était les comédiennes, non plus ça marchait pas. C'était pas nécessaire, c'est pas que ça marche pas, mais le producteur, quand il m'a dit « pense à la psychologie des personnages », je me suis dit « non, c'est pas un film sur la psychologie, contrairement à celui que je suis en train de faire maintenant ». Pas du tout ça. C'est l'amour et la sensualité et le coming out, tout ça, les désirs. Et donc, on a engagé des danseuses pour faire ça. Après, j'ai redessiné par-dessus les mains qui se touchent. Et c'est très dur en animation de faire des corps ensemble. Déjà, juste une personne, mais deux collés ensemble, c'est assez dur. Alors là, ça a bien marché avec ce principe-là.
C'est génial. Grand merci, Diana Bomsawin, d'avoir accepté de nous
parler.
Oui,
merci, Nathalie.
On va attendre avec impatience ton projet « Je ne t'aime plus ».
Oui.
On a hâte de voir. Félicitations encore pour le prix hommage la journée de
festivité. Merci beaucoup. Merci.
Merci à toi. On va écouter les remerciements de Diana Bomsawin lors de la remise du prix hommage, qui sera suivi de l'humoriste Kat Levac, qui a reçu le prix Visibilité lesbienne à la JVL 2021.
Mon nom est Diana Bomsawin. Je fais principalement des bandes dessinées et des films d'animation. Je travaille avec une tablette graphique et un petit stylo. Et c'est à peu près ça ma vie. J'en profite ici pour remercier chaleureusement l'équipe du Réseau des lesbiennes du Québec de m'avoir donné ce prix hommage. Merci. Et aussi j'en profite pour donner mon soutien moral à toutes celles et ceux qui souffrent à cause de leurs différences. Et je nous encourage vivement toutes et tous à être fiers de qui nous sommes. Merci beaucoup.
Merci au Réseau des lesbiennes du Québec pour ce beau prix. Je suis ravie d'être considéré comme un modèle assez trop stable pour recevoir cet honneur. Moi, quand j'ai décidé d'assumer publiquement mon homosexualité, je me serais jamais douté de l'impact que ça allait avoir, des liens que j'allais créer grâce à ça, de tout le positif en fait que ça allait m'apporter dans ma vie. Donc, ça fait grand bonheur que j'accepte ce prix. Prix que mon amoureuse Chloé Robichaud a elle-même jamais remporté. Fait de moi quelqu'un d'un petit peu plus lesbienne que Chloé Robichaud, et ça, je pensais pas que ça se pouvait, mais oui, ça se peut. Faut croire en ses rêves. Merci!
J'aimerais revenir sur la JVL 2021 qui avait lieu en fin de semaine, et avec qui de mieux pour le faire que Julie Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Bonsoir Julie.
Bonsoir Nathalie.
Pour une deuxième année consécutive, la JVL a eu lieu en ligne cette année. On vient tout juste d'entendre Diana Bomsawin qui a reçu le prix Hommage 2021. Quels ont été les moments forts de la fin de semaine?
Ben, les moments forts de cette fin de semaine-là, ben, il ne faut pas oublier que encore pour une seconde année, la journée des visibilités lesbiennes a été 100% en ligne. Donc, des moments forts à distance, c'est un petit peu plus dur à créer.
Oui.
On fait notre possible, là, c'est ça. Mais je pense vraiment que ce qui est fort dans la JVL, c'est qu'on est capable de rassembler différentes personnes avec différents points de vue qui, ensemble, forment un tout vraiment intéressant et une panoplie de modèles, tu sais. Puis c'est ça aussi, la journée de visibilité lesbienne. C'est pas genre s'uniformiser à un modèle. C'est vraiment décliner différentes identités pour justement promouvoir cette visibilité-là, promouvoir notre diversité pour qu'on puisse sortir justement un peu de l'ombre des communautés LGBTQ+.
Et qu'est-ce que tu retiens de la fin de semaine d'activité? Est-ce que tu as eu un moment qui t'a marqué plus que d'autres?
Ben, tu sais, on est vraiment heureuse d'avoir une nouvelle porte-parole, là. Elle Salvaille a vraiment un discours authentique, vrai, agréable à entendre. T'sais, je trouve ça rafraîchissant parce que je trouve qu'un peu on est aseptisé, là, si je pourrais dire ça comme ça aujourd'hui, des discours authentiques, t'sais, avec les médias sociaux, avant d'écrire une phrase, on la relit, ben pas tous, là, mais on est gens. La relise 10-15 fois, puis on voit très bien que les paroles sont moins fluides et portent moins justement à débattre et à questionner certaines choses. Mais nos vies entières sont questionnables, nos actions sont questionnables, on fait des fautes. C'est normal. T'sais, on n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. Là. T'sais, ça nous a pris des semaines à apprendre à marcher. Puis on est tombé, on s'est fait mal. Il y en a plus que d'autres. Puis il y en a moins que d'autres. Il y en a des plus rapides. Puis je trouve que c'est ça aussi la beauté de la vie. T'sais, toujours dans le respect, là, on s'entend.
Ouais.
Mais la beauté de la vie, c'est de pouvoir se permettre l'erreur. T'sais. Puis pouvoir comprendre cette erreur et en grandir. Puis que je trouve beau dans le discours de Ève, c'est ça. Il y a comme une prise de conscience de certains pas qu'elle a fait, puis elle est capable comme de s'en faire grandir, de grandir sa personne. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu faire l'ouverture avec elle. Eugénie est une animatrice hors pair. Eugénie Lépine-Blondeau, toujours souriante, agréable, vraiment à l'écoute des paroles, tu sais, parce que c'est sûr qu'on organise les choses, mais quand on fait une interview ou qu'on entretient quelqu'un, il faut vraiment être à l'écoute. Sinon, justement, on perd de cette authenticité-là. Puis Eugénie a vraiment une capacité d'écoute puis d'aller sur des sujets vraiment intéressants. Puis c'est sûr que nos deux prix cette année qu'on a remis à Catherine Novak et Diane Obomsawin, je pense vraiment qu'on a tapé dans le mille. Diane est une personne incroyable, a fait un film que moi-même j'écoute souvent avec mes enfants pour justement montrer un petit peu que c'est pas juste nous deux, nos deux mamans qui sommes dans ce monde-là, mais qu'il y a bien une diversité puis que justement il y a même des filles parle de nous, tu sais. Puis pour Catherine, c'est une femme exceptionnelle de parler jour après jour. Tu sais, des fois, je me dis, elle fait un peu comme nous au réseau, on fait, tu sais. C'est de la défense de droit, c'est de la démystification, de l'éducation populaire. Donc, puis, tu sais, nous, on est dedans. Là. Toi aussi, d'ailleurs, Nathalie, tu sais, en tant qu'animatrice radio, puis présidente, puis tu as toujours été dans la communauté. Tu le sais à quel point c'est des actions qui sont importantes pour briser les plafonds de verre, même si on n'en a pas conscience maintenant. Donc non, j'ai vraiment été, ça a été comme l'équipe en fait, tout le monde, tu sais, nos invités, nos porte-paroles, mais l'équipe aussi de la RLQ. Je pense que c'est ça notre force.
Oui, absolument.
C'est vraiment là-dessus. Ouais.
C'est vrai, puis c'était une belle ouverture, puis oui, c'était super. Et il y a le zine qui sort demain avec les 30 portraits des femmes en région. Ça va être possible de se le procurer comment?
Ben, ça va être possible de se le procurer sur le site internet de RLQ, www.rlq-qln.ca. Donc, pour nos membres, on a un prix spécial toujours, mais il va être aussi sur les libraires, sur le site internet des libraires. Puis on a toujours notre partenaire Le Guédion qui fait la promotion de tous les ouvrages de RLQ. Puis, c'est un ouvrage vraiment magnifique. Je trouve que c'est d'une simplicité, justement, qui crée sa beauté. Et on sort de ces artifices, on reste vraiment dans une simplicité qu'on est juste comme des humains, puis on est juste comme des personnes bien normales, ayant fait ou pas des choses exceptionnelles, mais à notre façon. Je pense que tout le monde est exceptionnel aussi, là. Je veux dire, ben, je suis pas utopique non plus, là. Faut pas non plus se leurrer, là. Mais je pense que on fait toutes des choses à un moment donné qui nous sort de l'ordinaire, puis ça peut paraître bénin, plate pour certains, mais ça peut changer la vie de certaines, tu sais, ou certains.
Oui.
Donc, c'est pas la grandeur ou la portée, je pense, qui est juste centrale là, dans l'usine. C'est ça qui est beau, tu sais. On fait la promotion d'une diversité saine. J'en suis fière. C'est un peu, encore une fois, grâce à l'équipe. Tu sais, je pense que les actions qu'on fait nous reflètent également. Là. Donc, c'est vraiment ça. Là. J'ai vraiment hâte que vous le procurer pour voir justement ça.
Super. Ben, je te remercie beaucoup, Julie Antoine, d'avoir pris du temps pour nous parler ce soir.
Ça me fait plaisir, Nathalie. Je suis toujours heureuse de venir à ton émission. C'est vraiment agréable. Merci.
Merci à toi.
Bonjour, ici Sylvie Paquette. Vous écoutez Nathalie Di Palma sur CKUT 90.3 FM. We'll be right back.
C'était Sylvie Paquette avec Donne-moi. Nous, on se reparle le 21 juin prochain pour une autre émission de Lesbosons. On se laisse avec Those Trees et la chanson Mistress. Ce sera suivi de Pamela Parral. À très bientôt. Prenez soin de vous.
Bonjour à tous les dames sexées de Montréal. Ici Pamela Parral. Vous écoutez les Lesbosons sur les ondes du CKUT 90.3 FM.
Just another heartbreak gone. you're just another, no, it's not you, it's me. You're just another bad chance of timing. You're just another love song. Made a lot of promises you couldn't keep. I should have just followed my head, but I got sucked in deep. Thing you could have done, you made a fool of me, a fool of me. We are just another love song. You're just another heartbreak gone wrong. You're just another, no, it's not you, it's me. You're just another bad chance of timing. You're just
sound is calling. The Suwanee Perry Popolo Music Festival is back and online with free jazz, noise, punk, new music, spoken word, electronic, avant-rock, sound art, and dance parties. Over 60 artists performing from Montreal, Chicago, Philadelphia, Sioux Lookout, Toronto, Mexico City, Brussels, Berlin, Tehran, Kampala, and Nairobi. Heed the call between June 3rd and 21st at suwanneeperrypopolo.org.
One thing we've all learned from COVID-19 is that something small can spread quickly, like a ripple. If enough of us do our part by getting vaccinated, we can start a wave. A wave of Canadians helping each other return to the people and places we love. We can all help by getting vaccinated. Learn more at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.